Europe Midi, Thierry Dagiral.
Il est midi et demi, soyez les bienvenus, c'est Europe Midi, 30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce jeudi 30 décembre. C'était déjà le cas dans plusieurs départements, le masque redevient obligatoire dès demain en Ile-de-France, le réveillon sera également écourté, reportage à suivre dans un instant. Cette mesure est-elle vraiment utile pour lutter contre le virus? Je poserai la question à l'urgentiste Gérald Kierzek en direct avec nous dans un instant. Une amende jusqu'à 1000 euros par salariés pour les entreprises qui n'appliqueraient l'obligation de télétravail, les foires et les salons qui ne seront pas concernés par les jauges, le détail de toutes les dernières informations de la matinée dans ce journal. C'était il y a 20 ans, rappelez-vous, on changeait de monnaie, adieu le franc, bonjour l'euro. Est-ce que le coût de la vie a augmenté, mythe ou réalité? L'économiste Christian de Boissieux nous rejoindra. Et puis c'est l'enquête annuelle de 60 millions de consommateurs, quelles sont les entreprises qui se distinguent cette année par des pratiques contestables envers nous, les consommateurs. Réponse vers 1h-10. Mais d'abord, la tendance météo de votre jeudi, Marlène Duré.
Ambiance printanière avec toujours beaucoup de douceur et le soleil qui s'impose par le sud cet après-midi. Il percera furtivement sur la moitié nord, excepté quand même le long des frontières du nord et du nord-est. Là, le temps va rester humide. Et puis, notez que l'alerte a été levée dans les Alpes du Nord, mais le risque d'avalanche reste élevé.
Le détail météo, bien sûr, ce sera juste avant 13h. Europe 1. Le masque en extérieur, il était déjà à nouveau obligatoire depuis Noël en Savoie, à Honfleur dans le Calvados. La Loire, l'Oise et le Var l'imposent depuis plusieurs semaines. Eh bien, il faudra remettre votre masque dehors à partir de demain matin en Ile-de-France. Bonjour Zoé Palier.
Bonjour.
Zoé, cela vient s'ajouter à la fermeture des bars et restaurants à 2h du matin dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Véritable tour de vis donc. Comment réagissent les Parisiens autour de vous, Zoé?
Eh bien écoutez, les avis sont assez partagés. Hein. Par exemple, sur le port du masque en extérieur, il y a ceux qui se sont habitués depuis 6 mois à l'enlever directement en sortant du métro et ne voient pas l'intérêt de cette nouvelle mesure.
On nous a fait toute une campagne de vaccination qu'on a prouvé par A plus B que finalement le masque, ça servait pas grand chose à l'extérieur. Et maintenant on doit reporter les masques. Donc c'est un petit peu aberrant, mais bon.
Et puis il y a ceux que cette obligation rassure finalement alors que le taux d'incidence dépasse les 2000 cas pour 100 000 habitants à Paris.
Il faut absolument se protéger au maximum pour pouvoir vivre de la meilleure façon possible sans restrictions plus sévères.
Il faut savoir gérer les lunettes mais à part ça, je pense que c'est utile.
Martin, lui, est patron d'un bar et vous le disiez Thierry, il devra fermer à 2h demain soir, mais il s'attendait finalement à cette nouvelle restriction.
Le fait que les gens ne puissent pas danser, ça donne moins envie de sortir et de faire la fête, quoi. Donc je pense que les gens vont rester chez eux, on va peut-être avoir du monde qui va sortir, venir manger, mais la soirée va pas pousser, quoi, je pense. C'est quand même mieux que l'année dernière, au moins on est ouvert, on peut continuer à travailler et voilà, quoi.
Voilà, et la préfecture de police a annoncé multiplier les contrôles ce week-end et dans les prochains jours. Les Parisiens qui ne respectent pas ces nouvelles mesures encourent une amende de 135 euros.
Merci Zoé. Zoé Palier, bonjour Gérald Kierzek.
Bonjour.
Médecin urgentiste, bien sûr, remettre un masque dehors, en plein air, dans la rue, est-ce vraiment le bon moyen pour éviter la circulation du virus ?
Non, ça n'a pas de sens. On sait maintenant que le coronavirus, il se transmet comme tous les virus respiratoires à l'intérieur, dans une atmosphère close où on ne peut pas ventiler, on ne peut pas aérer. Donc le masque éventuellement à l'intérieur quand il y a un brassage de population, oui, mais le masque à l'extérieur, je crois que ça n'a pas de sens. La bonne image, c'est quand vous fumez une cigarette à l'extérieur, le nuage de fumée, il va se dissiper dans l'air. Ben, le nuage de coronavirus, c'est exactement la même chose. Et puis le temps de contact, c'est-à-dire la durée d'exposition au coronavirus, si vous croisez quelqu'un par exemple, elle est extrêmement courte et donc elle ne permet pas de vous contaminer. Donc c'est pas ça qui va changer la donne sur les contaminations à l'Omicron en particulier.
Plus de 200 000 nouveaux cas en 24 heures, c'est le chiffre qu'annonçait le ministre Véran hier. À Paris et en région parisienne, c'est essentiellement le variant Omicron qui sévit.
Oui, probablement, quand on voit ces chiffres-là, alors même si le séquençage est pas fait systématiquement, il n'y a pas besoin de le faire systématiquement, on voit qu'on suit ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui s'est passé dans d'autres pays dans le monde, et que la contagiosité de l'Omicron fait que les chiffres explosent. Alors, attention, ce sont des cas positifs, ce ne sont pas des gens malades, ou ce sont des gens malades qui le sont très faiblement. Donc, il ne faut pas confondre entre les cas positifs, une épidémie de courbe, et des gens qui seraient hospitalisés. D'ailleurs, quand on regarde les hospitalisations, elles ne bougent pas, le nombre de passages aux urgences est dans la moyenne de ce qui s'est passé les 4 dernières années. Donc il n'y a absolument pas de panique à avoir à date sur ces chiffres. Et quand je regarde ce qui se passe en Angleterre, on a une parfaite décorrélation avec des chiffres à 200 000 de plateaux par jour, hein, 200 000 cas positifs, mais les hospitalisations qui n'ont pas bougé. Et ça, c'est la bonne nouvelle avec le Omicron. Il est très contagieux, mais il est franchement très bénin aussi, en tout cas de ce qu'on peut voir dans les autres pays.
C'est intéressant ce que vous dites, Gérald Kierzek, parce que vous êtes urgentiste à l'hôpital Hôtel Dieu en plein cœur de Paris, donc après Notre-Dame. Le ministre parlait hier d'un raz-de-marée. Ça veut dire que cette explosion, vous ne la constatez pas sur le terrain ?
Il n'y a pas que moi qui ne la constate pas. Quand vous reprenez les chiffres de l'Agence régionale de santé, par exemple, le bulletin d'hier montrait très clairement qu'on était dans l'intervalle du nombre de passages, intervalle de confiance qu'on connaît. Hein. Chaque jour sont répertoriés les passages aux urgences et finalement, on est dans la moyenne des 4 dernières années. Donc, il n'y a vraiment pas de panique. Après, il y a une situation de tension sur les services de réanimation, mais qui est une tension, là aussi, j'allais dire, malheureusement habituelle, à laquelle on s'est habitué avec des patients non-Covid essentiellement et puis des patients Covid aussi, qui sont un peu la goutte d'eau qui font déborder le vase. Mais quand on regarde le nombre de cas positifs n'a rien à voir avec les hospitalisations qui ne bougent pas, qui sont, et on a l'exemple de l'Afrique du Sud, hein, qui a passé la vague Omicron et qui l'a passé sans aucun problème, sans aucune saturation des services hospitaliers. Alors après, notre pays malheureusement est en crise structurelle, on le sait que le problème de l'hôpital, c'est plutôt le problème des ressources humaines, du manque d'infirmières, du manque de médecins, et s'ils sont contaminés au Omicron, ils vont être en arrêt de travail. Donc ça pose un problème. Mais c'est pas lié à un afflux de patients. Je crois qu'il faut sortir de ce mode panique. Et quand on regarde 200 ou 300 000 cas positifs par jour, c'est absolument pas corrélé à des hospitalisations.
Mais ça veut dire que pour vous, les messages du gouvernement font trop peur, sont anxiogènes ?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour l'instant de paniquer, que les exemples étrangers nous montrent qu'il ne faut pas paniquer non plus, l'Afrique du Sud, l'Angleterre. Après, je pense qu'il y a une volonté pédagogique de la part du gouvernement de jouer sur la peur pour pouvoir pousser les gens à la vaccination. Mais en tout cas, les deux choses sont déconnectées et on ne peut pas dire quand on a 200 000 cas par jour que c'est un raz-de-marée hospitalier, parce que c'est faux. C'est un raz-de-marée de cas positifs à l'Omicron ou au Covid, mais de gens qui ne sont pas forcément gravement malades. Ça s'apparente plutôt à un rhume ou à quelque chose de bénin. Après, il faut que les gens, notamment fragiles, soient vaccinés. Ça, c'est une priorité. Mais en tout cas, ce n'est pas un raz-de-marée hospitalier. Et je crois que ce mode de gestion par la peur est assez constant depuis le début de la crise. Et il peut aussi avoir des effets secondaires. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont paniqués, qui sont terrés chez eux. Et je crois que ça a vraiment des effets négatifs.
Le médecin urgentiste Gérald Kierzek sur Europe 1. Merci, merci à vous.
Merci à vous.
C'est désormais officiel. Hein. Si une entreprise n'applique pas le télétravail obligatoire à partir de lundi, l'amende par salarié pourrait grimper jusqu'à 1000 euros, annonce de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ce matin. Mais on le sait, c'est un vrai casse-tête pour les patrons. Exemple dans cette entreprise de Lille. Reportage Maximilien Carlier.
Dans cette agence de communication culinaire, la cuisine, les bureaux devraient être bien vides ce lundi. 10 salariés, tous sont habitués à télétravailler une seule fois par semaine. Allaude Lefebvre, fondatrice de Sublimeur.
On est une petite entreprise, donc franchement, c'est pas une bonne ambiance de rentrée. On va devoir leur imposer un planning avec des jours fixes de télétravail, alors que c'est pas leur manière de travailler. Et donc, je suis pas ravie de les accueillir avec ça lundi.
Visioconférence désormais obligatoire. Il va falloir également prévenir chaque salarié.
Oui, bonjour Ariane, c'est Allode.
Impossible également de rencontrer les clients pour le démarchage.
Normalement, tu devais distribuer sur combien de jours les kits de communication auprès des restaurateurs ?
On avait prévu ça sur tout le mois de janvier et un peu début février aussi.
Ok, donc là c'est tout un mois en fait d'organisation qui va être bouleversé parce que le télétravail est obligatoire.
Ouais, c'est ça.
Un vrai casse-tête, on ne nous laisse aucune liberté, insiste cette gérante qui aurait préféré continuer à travailler en équipe avec le masque, quitte à sacrifier, me dit-elle, les pauses déjeuner plus favorables à la circulation du virus. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Autre information de la matinée, les fameuses jauges, 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur, elles ne concerneront pas les foires, pas les salons, mais également pas les zoos et les parcs d'attractions. Réaction et soulagement de Frédéric Pitrou, il est délégué général d'UNIMEV, l'Union française des métiers de l'événement.
C'est un gros soulagement pour nous. Alors, je ne peux pas vous cacher que depuis les dernières annonces du Premier ministre, c'était un peu la panique dans la profession. On avait recensé 130 événements qui allaient être impactés par cette mesure. Parmi les plus gros, le salon Maisons et Objets, qui devait se tenir fin janvier et qui finalement est reporté au mois de mars. C'est pour ça que C'est un peu dommage qu'il y ait eu ces quelques jours de flou, tout simplement parce que des décisions ont été prises dans l'urgence, parce qu'il y avait quand même des événements qui se tenaient dans les prochaines semaines, et il a fallu prendre des décisions. Donc il y a eu quelques reports qui ont été mis en place, tout simplement parce que la jauge des 2000 ne permettait pas de tenir l'événement dans de bonnes conditions.
Alors on va continuer à parler des jauges qui vont en revanche bien s'appliquer aux salles de concert. On se souvient du coup de gueule de certains artistes en début de semaine. Marie Jiquel, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Pour les patrons de salles, ça va faire mal, l'ardoise va être franchement salée.
Oui, une ardoise salée et surprenante, surtout comme me le confiait Lily Fischer, la directrice du Zénith de Paris qui contient 7000 places. Ces grosses salles se sentaient épargnées après les protocoles sanitaires mis en place. L'heure est au Tetris géant puisqu'il faut reporter les spectacles entre le printemps et l'automne prochain et survivre économiquement. Un concert au Zénith, une date rapporte entre 30 000 et 50 000 euros. On écoute Lily Fischer.
On a un bilan très négatif puisqu'on n'a pas joué quasiment depuis 2 ans. Depuis mars 2020, on a fait à peine une petite vingtaine de représentations, sachant que c'est une petite moyenne mensuelle. D'habitude, on est à 150 représentations par an. On espère que l'État sera à la hauteur. C'est vrai que là, on a contracté des PGE. Et l'ironie du sort fait qu'on serait censé commencer à les rembourser en début d'année, ces PGE, au moment où on referme de nouveau notre Zénith.
Vous l'avez compris, les salles comptent sur l'État. Va-t-il repousser le remboursement de ces PGE, ces prêts garantis par l'État ? Et les salles en appellent aussi de nouveau au CNM, le Centre National de la Musique, qui a su activer des aides pour le secteur lors du premier confinement. Et pour info, hein, Thierry, au Zénith, le spectacle le plus attendu en janvier, annulé donc, c'était le groupe Bon Entendeur, reporté déjà 4 fois.
Merci Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Allez, restez avec nous dans un instant. Des élus visés par des actes criminels, Gérald Darmanin va agir. La mise en place de l'euro il y a 20 ans, le palmarès des pires entreprises de 2021. Et puis le dernier Houellebecq, Nicolas Carreau l'a lu pour vous. Bon appétit, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
1 heure moins le quart, la suite de votre édition de la mi-journée sur Europe 1. On va parler à présent des actes criminels contre des élus parce qu'ils font partie de la majorité, parce qu'ils vont voter le texte instaurant le pass vaccinal. Dans l'Oise, le garage du député La République En Marche, Pascal Bois, a été incendié. Il a porté plainte, il s'est confié à Siam Spencer.
Écoutez, à 3h du matin, j'ai été réveillé par les pompiers qui sont venus tambouriner à notre porte. J'ai tout de suite pensé que c'était un acte malveillant. Puis après, on m'a fait part qu'il y avait des tags extérieurs sur la rue. Vous avez un tag qui dit « voter contre » et puis un autre « ça va péter ». On a tous compris que c'est en préfiguration de la loi du pass vaccinal qui doit passer prochainement. Ce n'est pas ma personne qui est visée en tant que telle. C'est naturellement la majorité que je représente. Les pratiques qui sont là, utilisées, il y a une part de lâcheté ou d'irresponsabilité totale.
Voilà, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, trouve cela intolérable. Gladys Laffitte, il a demandé que soit renforcée la protection des élus.
Oui, exactement. Dans un télégramme que nous avons pu consulter, Gérald Darmanin a fait passer plusieurs consignes. La plus forte, que les forces de l'ordre passent systématiquement devant les domiciles et les permanences des élus lorsqu'ils sont en patrouille. Il est aussi demandé aux gendarmes et aux policiers d'accompagner avec soin, je cite, les élus qui déposeraient plainte et de faciliter cette démarche en allant directement en mairie ou dans tout autre lieu de leur convenance. Les réseaux sociaux devront aussi être plus surveillés pour détecter les messages de haine et les signaler immédiatement. Voilà, ces consignes interviennent alors que de nouvelles restrictions ont été annoncées par le gouvernement et leurs discussions au Parlement sont susceptibles de susciter des menaces, voire des passages à l'acte contre les élus, écrit Gérald Darmanin. Il en appelle donc à la nécessaire vigilance des forces de l'ordre. Déjà l'été dernier, les parlementaires en particulier avaient fait l'objet de menaces et de nombreux actes de malveillance lors de la mise en place du pass sanitaire.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. En bref, est-ce que le procès des attentats du 13 novembre va pouvoir reprendre mardi comme prévu, reprise qui pourrait être repoussée de 48 heures puisque le principal accusé, Salah Abdeslam, a été testé positif en début de semaine dans sa prison de Fleury-Mérogis. Dernière minute encore, Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid, a été testé positif au Covid. Alors, est-ce que cette pandémie qui explose va perturber la campagne présidentielle? Est-ce que les meetings vont pouvoir avoir lieu? Alexandre Chauveau, bonjour.
Bonjour.
Le ministre de l'Intérieur va réunir une commission pour réfléchir sérieusement à l'organisation de ce scrutin prévu en avril. Hein.
Oui, et Gérald Darmanin, chargé de l'organisation des élections, va d'abord rencontrer Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, à sa demande pour échanger sur les mesures susceptibles d'améliorer le déroulement du scrutin. Le ministre de l'Intérieur réunira donc ensuite l'ensemble des formations politiques pour entamer un dialogue avec elles et surtout faire preuve de transparence. Surtout, ne pas être accusé de faire les choses en catimini alors qu'Emmanuel Macron devrait être candidat à sa réélection dans les prochaines semaines. Alors Jean Castex l'a répété lundi, pas question d'interdire les meetings qui sont de toute façon protégés constitutionnellement. Mais des questions se posent, on l'a vu, sur leur organisation, sur la mise en place des jauges ou la nécessité d'imposer le pass vaccinal à l'entrée. Et puis compte tenu de la réduction probable du nombre de ces meetings, on évoque par exemple la possibilité de permettre aux candidats d'avoir plus de temps pour présenter leur programme dans les spots de campagne diffusés à la télévision. Le recours au vote par correspondance semble en revanche exclu. En tout cas, le gouvernement l'assure, il n'y aura pas de report des élections. Ces discussions ont simplement pour but d'organiser du mieux possible le scrutin en tenant compte évidemment de l'évolution de l'épidémie.
Explication signée Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Europe Midi, Thierry Dagiral.
C'était il y a 20 ans, on troquait nos francs pour des euros, c'est la France, c'est pas la France, mais c'est toute l'Europe qui basculait bien sûr dans cette nouvelle monnaie commune. Et Dieu sait que cela a été un casse-tête au début et pendant plusieurs mois du calcul mental permanent. Le 1er janvier 2002, notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon, avait 20 ans de moins. Et il était ce matin-là avec un patron de bar lyonnais qui manipulait ses premiers euros.
On dirait des pièces en chocolat, des billets de Monopoly. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Pour l'instant, les clients, ils sont comme nous, ils sont un peu perdus. On répète souvent un peu les mêmes choses. Voilà, ça c'est une pièce de cents. Le fait que ce soit en euros, on a l'impression que tout de suite, il faudrait multiplier par un 6,55 et quelques. Et que le client, il a besoin d'être assisté là-dedans. Quoi. Donc on verra dans quelques jours. Pour l'instant, tout se passe bien.
Voilà, donc il y a pile 20 ans, 1er janvier 2002. Bonjour Christian de Boissieu.
Bonjour.
Économiste, on a besoin de vos lumières. Est-ce que ce passage à l'euro a fait grimper les prix, oui ou non?
Oui, il a fait grimper certains prix et je pense que à l'époque, l'effet inflationniste a été sous-estimé, y compris par l'INSEE. Je me souviens des chiffres qui avaient été publiés les deux premières années de l'euro qui montraient que c'était relativement marginal. Mais je pense qu'il y a eu un impact sur l'inflation et sur l'inflation ressentie, parce qu'il peut y avoir un écart entre au fond, l'inflation mesurée par les indices de l'INSEE et puis ce que ressentent les gens. Et il y a eu des prix d'achat quotidien, vous parliez du zinc, le café sur le zinc a grimpé, il y a un certain nombre d'achats qu'on fait.
Et la baguette, un euro aujourd'hui, ça veut dire quoi, voilà. 6-7 francs à l'époque, ça aurait été dingue.
Ah oui, alors, il s'est passé 20 ans, donc il y a eu entre-temps un peu d'inflation qui fait que les comparaisons dans le temps valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire, il faut faire attention aux comparaisons avec les prix d'il y a 20 ans.
Bien
mais
sûr.
Indépendamment de ça, il y a eu un effet inflationniste, mais inévitable, quand vous changez de repère monétaire, quand vous changez de monnaie, il y a toujours des ajustements. Et excuse-moi, si on revenait au franc français, ce qui n'est pas d'actualité, j'allais dire heureusement, il y aurait des ajustements également, pas dans l'autre sens, mais dans le même sens. C'est-à-dire que chaque fois que vous changez d'unité monétaire, vous avez des prix qui grimpent. Alors, dans le même temps, il faut être équitable, il y a eu des prix qui ont baissé. Mais c'était des prix, par exemple, dans l'électroménager du fait du renforcement de la concurrence.
Ouais.
Parce que l'euro, ça voulait dire une comparaison plus facile. Des prix entre les pays membres de l'euro. On peut faire des comparaisons immédiates entre l'Allemagne, l'Italie, la France, etc. Donc ça renforçait la concurrence et fait baisser certains prix, mais des prix, je veux dire, d'achat qu'on ne fait pas tous les jours.
Ouais.
Voilà, on change pas de bagnole tous les jours.
Christian de Boissieu, on est tous maintenant à la même enseigne depuis 20 ans en Europe. Certains pays accusent plus le coup que d'autres.
Mais d'abord, on n'est pas tous. Hein. Aujourd'hui, vous avez 19 pays, alors que vous avez 19 pays qui sont dans l'euro, alors que vous avez, après le Brexit, 27 pays qui sont dans l'Union européenne. Donc, il y a des pays aujourd'hui qui sont dans le marché unique sans être dans la monnaie unique. Est-ce que, votre question, c'est est-ce que les effets ont été très différents d'un pays à l'autre? peut-être parce que les conditions de concurrence étaient sont pas les mêmes, mais grosso modo, l'effet que vous évoquez, c'est-à-dire l'effet inflationniste à court terme, je pense qu'il a joué partout. Je me souviens des débats qui sont intervenus à l'époque en Belgique, qui sont intervenus en Italie, c'était les mêmes questions et les mêmes doutes, en quelque sorte, que ceux qui s'exprimaient en France.
L'économiste Christian de Boissieu dans Europe Midi. Grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.
Merci.
Tendez l'oreille à présent, on va s'intéresser maintenant à cette enquête annuelle de 60 millions de consommateurs, ça s'appelle les cactus de la consommation. Chaque année, cette enquête pointe du doigt les entreprises qui nous prennent, nous consommateurs, pour des pigeons. Élise Dangean, bonjour.
Bonjour.
Vous avez épluché ce palmarès et la palme revient cette année aux industriels de la charcuterie.
Absolument, et c'est une première pour cette cinquième édition. 60 millions de consommateurs n'épinglent pas une entreprise, mais bien toute une filière, en tout cas c'est représentant. Le magazine reproche à la Fédération des industriels de la charcuterie d'avoir attaqué à trois reprises cette année Yuka, la fameuse application mobile qui décrypte les compositions des produits. Les charcutiers, eux, crient au dénigrement car leur utilisation de sel nitrité classé cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé est pointée du doigt. Pour 60 millions de consommateurs, c'en est trop. La profession bafoue le droit à la transparence, tout comme Red SFR, d'une certaine manière, qui ne cesse d'augmenter ses tarifs, comme l'explique Hervé Cabibeau, rédacteur en chef adjoint du magazine.
Alors, la pratique n'est pas illégale, hein. Ils peuvent le faire. Un prestataire peut tout à fait informer un client d'une augmentation de prix et l'appliquer sans attendre d'avoir son accord. Mais la méthode est un peu étrange et ça exaspère beaucoup les gens qui nous écrivent beaucoup pour se plaindre de ça. Le problème, c'est que c'est un petit peu fait à la va-vite, un petit peu en douce, hein, plutôt discrètement. On reçoit un mail qui vient se perdre avec tous les autres mails que l'on reçoit dans les newsletters. C'est bien que le client ne s'en aperçoit pas forcément. Et une fois que c'est fait, bon, c'est fait et voilà.
Alors, dans ce palmarès, on retrouve aussi Le Bon Coin, dont le service client est injoignable, ou encore Interflora qui coche par défaut une case pour un abonnement automatique de livraison, ce qui n'est pas du tout légal. Et le point commun entre la plupart de ces pratiques, eh bien, c'est qu'elles perdurent. Bon nombre d'acteurs cités ont déjà été épinglés à plusieurs reprises.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Allez, on termine avec le livre de la rentrée littéraire. Ce sera l'événement. Il s'agit du nouveau livre de Michel Houellebecq. Vous le trouverez chez votre libraire le 7 janvier prochain. Les consignes de la maison d'édition sont strictes. Pas d'interview, interdiction de parler du livre avant aujourd'hui. Titre du livre, Anéantir, c'est chez Flammarion, 750 pages. Nicolas Caro a pu le lire pour nous.
Le livre s'ouvre sur une phrase très houellebecquienne. Certains lundis de la toute fin novembre ou du début décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Fin de citation. Bon, encore une plongée mortifère au plus profond de la solitude, se dit-on. Mais non, très vite on bascule dans une sorte de roman d'espionnage. Des agents de la DGSI sont intrigués par des vidéos diffusées sur le web par des hackers, notamment une où l'on voit le ministre de l'économie Bruno Juge, qui ressemble étrangement à Bruno Le Maire d'ailleurs, se faire guillotiner. C'est un montage, le ministre lui s'occupe d'affaires plus importantes, comme la présidentielle de 2027, dans 6 mois, avec son conseiller Paul Raison. C'est lui le héros du livre. Il travaille beaucoup, son couple est en perdition et son père vient de faire un AVC, ce qui va obliger Paul à retrouver sa famille. Ça ne lui plaît pas beaucoup. Dans Anéantir, on retrouve l'humour grinçant de l'écrivain, voire son cynisme parfois sur la déréliction de l'Occident, mais on y découvre aussi un Houellebecq apaisé, un Houellebecq à la recherche de la bonté de ses personnages. L'amour sauve, c'est le message du livre, sans doute le plus beau roman de Michel Houellebecq.
Le dernier Houellebecq sorti donc le 7 janvier.